Voilà qu'on retrouve Antoine Mercier pour son journal. Bonjour à vous Antoine.
Bonjour Olivia, bonjour à tous. PSA envisage de supprimer 2200 emplois, dont plus de la moitié par la procédure de la convention, la rupture conventionnelle collective. Précision d'Hakim Kasmi dans un instant. L'enseigne de chaussures André, rachetée par un site français de vente en ligne qui s'appelle Spartoo. Explication de Marie Viennot. La visite en Chine d'Emmanuel Macron avec Airbus qui signe un accord de coopération industrielle. Areva aussi proche d'un accord, dit-on, pour la construction d'une usine de traitement des combustibles nucléaires usagés. Compte rendu de la visite aujourd'hui à Pékin du chef de l'État avec Dominique André. Le dégel intercoréen, la Corée du Nord prête à envoyer des athlètes et une délégation de haut rang aux prochains Jeux Olympiques en Corée du Sud, c'est en février prochain. Analyse avec Marie-Pierre Vérot. Le gouvernement annonce comme prévu l'abaissement de 90 km/h à 80 de la limitation de vitesse sur les routes secondaires à double sens. Enquête de Mélanie Juvet et puis l'invité de la séquence interview, Fabrice Lorvaux, avocat spécialiste en droit des médias avec qui nous parlerons de ce projet de loi sur les fake news, auteur d'un roman Cheval crétois autour de la manipulation de l'information chez l'Harmattan. Dans la dernière partie de la grande table, Olivia Gesbert.
Il y a 110 ans, naissait la philosophe Simone de Beauvoir et avec elle un nouveau féminisme. Que reste-t-il de son ouvrage phare, de son ouvrage fleuve, Le deuxième sexe? On va en reparler avec nos deux invités, l'historienne Michèle Perrot et l'essayiste académicienne Danielle Salnave qui sont avec nous dans la deuxième partie de la Grande Table.
Le groupe automobile PSA donc se lance à son tour dans la rupture conventionnelle collective. La direction envisage ainsi de supprimer 2200 emplois, dont plus de la moitié donc par cette méthode qui a été instaurée, on le sait, par la récente loi sur le travail. Des négociations se déroulent en ce moment entre la direction et les syndicats sur le site de Poissy. Hakim Kasmi, bonjour.
Bonjour Antoine Mercier.
Rupture conventionnelle collective, on le sait, on l'a dit, elle offre de nombreux avantages pour les employeurs. Elle permet de se séparer de salariés donc par groupe, sans passer par les contraintes d'un plan social traditionnel. Et de surcroît, il n'y a pas vraiment besoin pour l'entreprise de faire valoir ou de justifier des difficultés économiques, par exemple, pour expliquer donc ces suppressions d'emplois. Kim Kasmi.
Oui, avec cette mesure, PSA aura encore plus de flexibilité sur la gestion de ses effectifs, alors que le groupe est dans le vert, avec plus d'un milliard d'euros de bénéfices l'année dernière et des usines qui tournent à plein régime, même le week-end, dans certaines d'entre elles, face au succès de ce nouveau modèle, comme le Peugeot 3008. Pourtant, les effectifs, eux, continuent de baisser très fortement, avec notamment 25 000 postes supprimés depuis 2013 et l'arrivée de Carlos Tabarez avec ses différents plans comme Push to Pass ou encore Back in the Race. Ce qui n'est pas terminé car parallèlement, la direction de PSA a mis en place des plans de départ volontaires. Résultat, avec toutes ces mesures combinées, plusieurs sites sont menacés, comme celui de la Courneuve en région parisienne où travaillent 360 personnes, quant à celui de la Garenne-Colombes, spécialisé dans la recherche et développement, toujours en région parisienne. Il devrait fermer, ça a été validé dès l'année prochaine par la direction de PSA avec des solutions de reclassement ou de départ volontaire. On le voit là, Antoine, aucune catégorie n'est épargnée, car au-delà des ouvriers, comme c'était souvent le cas chez PSA, les fonctions support n'y échappent pas. Ce sont par exemple les ingénieurs, la communication ou encore le marketing, ce que dénonce la CGT, qui craint qu'avec la mise en place des ruptures conventionnelles collectives, on transforme les CDI en emploi précaire. Chez PSA, les CDI sont passés de 70 000 à 62 000 entre 2014 et 2016, alors que parallèlement, le nombre d'intérimaires, lui, est passé de 2 900 à 5 200 entre 2014 et 2016. Pour être définitivement validé, l'accord sur la rupture de convention collective devra être signé par plus de la moitié des syndicats, ce qui devrait intervenir fin janvier lors d'un CCE extraordinaire.
Merci beaucoup, Hakim Kasmi. On dit un mot de la visite en Chine d'Emmanuel Macron. C'était aujourd'hui la grosse journée des contrats. Airbus qui signe un accord pour développer la coopération industrielle sur un site du groupe qui se trouve déjà à Tianjin. Et puis Areva qui serait, dit-on, proche d'un accord commercial pour construire une usine de traitement des combustibles nucléaires usagés. C'est un chantier gigantesque et aussi, il faut le dire, providentiel pour l'ancien fleuron français de l'atome civil. Dominique André, vous êtes en direct avec nous depuis Pékin.
Oui, bonjour Antoine. Eh bien, c'est un changement d'ambiance et de calibre en cette fin de journée à Pékin. Ce matin, Emmanuel Macron a été avec les start-up innovantes de la French Tech en Chine. Et là, cet après-midi, donc, il assiste à la signature de contrats importants. Vous le disiez, Airbus, qui négocie en ce moment la vente d'une centaine d'appareils, a signé un accord pour développer la production sur son site d'assemblage des A320 à Tianjin. La Chine et la France signent aussi un contrat important pour la construction d'une usine de retraitement des déchets en Chine. Un contrat donc essentiel pour Areva. Ces accords ont été salués par le président Xi Jinping et Emmanuel Macron, qui étaient côte à côte cet après-midi. La Chine se félicite aussi de la coopération de la France dans les routes de la soie, malgré la réserve française sur les investissements chinois qui sont tous passés en revue et même refusés pour certains, a précisé le ministre de l'économie Bruno Le Maire, présent dans la délégation officielle d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron veut un agenda de confiance et de clarté dans sa relation avec la Chine. Il vient de le dire à l'instant, il ne veut pas d'une diplomatie de l'hygiaphone, une formule qui a fait sourire Xi Jinping. Emmanuel Macron viendra en Chine au moins une fois par an.
Merci Dominique André. Donc on l'entendait, vous étiez avec nous en direct depuis Pékin. Vous suivez pour nous le voyage d'Emmanuel Macron. Toujours dans le domaine économique, ce rachat ce matin de l'enseigne de chaussures André, qui appartient au groupe en restructuration Vivarte, rachat par le site français de vente en ligne Spartoo. C'est une information qui n'a pas encore été confirmée par les intéressés, mais qui est révélée ce matin par le journal Les Échos et par d'autres sources. Marie Viennot, bonjour.
Bonjour.
Ce qui frappe peut-être d'abord dans ce rachat, ce sont les statuts finalement de l'acheteur et du vendeur, puisque on l'a bien dit, c'est un site de vente en ligne de chaussures qui rachète des magasins bien réels. Pour quelle raison ?
Oui, alors c'est loin d'être un cas isolé. Hein. Le plus emblématique de ce type de rachat, c'est celui par Amazon cet été des magasins alimentaires Whole Foods aux États-Unis. 13 milliards d'euros, la plus grosse acquisition d'Amazon pour 460 points de vente. La logique, c'est de s'attaquer à la grande distribution, à la distribution directement sur son terrain, qui est la proximité, d'occuper tous les terrains, physiques et virtuels, et d'atteindre une taille critique pour rester dans la course face à ses concurrents. Spartoo, vendeur de chaussures en ligne, a aussi cette stratégie en tête. Or, ouvrir des magasins, cela prend du temps et de l'argent. Il faut trouver des lieux intéressants, négocier les baux, recruter des gérants et du personnel. En rachetant des magasins existants, on s'évite tous ces investissements. Alors, la vente d'André à Spartoo, vous le disiez, n'a pas été officialisée, mais l'information n'a pas été non plus démentie. La direction du Vivarte, en fait, est tenue légalement d'informer les syndicats avant toute communication extérieure. Ce devrait être chose faite lundi prochain. On saura alors peut-être à quelles conditions cette cession se fait et avec quelles garanties pour les 800 salariés d'André. Possible que Spartoo fasse une très bonne affaire avec André, car les emplacements de ces magasins sont bons et le prix pourrait ne pas être très élevé. Depuis des mois, Vivarte, le groupe de textile à qui appartient André, est engagé dans une restructuration qui consiste à vendre les marques du groupe les unes après les autres à tout prix. Le PDG de Vivarte, Patrick Puy, a évoqué en octobre dernier devant les syndicats l'idée qu'il faille mettre de l'argent sur la table pour vendre André, car le chausseur perd de l'argent. Voilà, payer pour être racheté par ceux-là même qui ont siphonné votre chiffre d'affaires en vous faisant concurrence grâce à Internet, c'est l'un des aspects de cette nouvelle économie dont on se demandait dans les années 2000, vous vous souvenez Antoine, à quoi elle ressemblerait.
Eh oui, très fort. Merci beaucoup Marie Viennot. Comment expliquer maintenant le dégel diplomatique entre les deux Corées ? Les signes de détente se sont multipliés ces derniers jours. Les deux pays dialoguent en fait aujourd'hui pour la première fois depuis plus de 2 ans. À l'occasion de discussions donc bilatérales, la Corée du Nord propose à son voisin du Sud d'envoyer une délégation aux Jeux Olympiques d'hiver de Pyeongchang, c'est en Corée du Sud, des Jeux qui vont avoir lieu donc en février, tandis que Séoul s'est dit prêt de son côté à lever certaines sanctions pour faciliter cette visite. Marie-Pierre Véraud, bonjour.
Bonjour Antoine.
Qu'est-ce qui pousse ainsi apparemment les deux régimes ennemis a priori de Corée de retrouver comme ça la voie du dialogue ?
Bien, du côté du Sud, rien de nouveau. Cette reprise du dialogue avec le Nord, c'est la promesse sur laquelle s'est fait élire Moon Jae-in en mai dernier, et il n'a eu de cesse, malgré le bellicisme de son allié américain, de réitérer ses offres de pourparlers et de privilégier la voie diplomatique à la militaire. Il engrange donc un premier succès. Donald Trump a même dû en rabattre en se réjouissant de la tenue de ces discussions, en espérant qu'elles iraient au-delà des Jeux Olympiques, et en se disant prêt, même éventuellement, sous condition, à s'entretenir lui-même avec le leader nord-coréen. Pour ce dernier, la main tendue au Sud lors du discours du Nouvel An résulte sans doute un agrégat de plusieurs éléments stratégiques et économiques. D'abord, après plus de 20 tests de missiles balistiques, dont certains intercontinentaux pouvant atteindre les États-Unis avec potentiellement une charge nucléaire. Après un sixième et très puissant essai nucléaire, le Nord-Coréen a atteint une position de force qui lui permet de proposer ce dialogue, mais à ses conditions. Il n'aurait sans doute jamais repris les pourparlers avec le Sud en état de faiblesse. Kim Jong-un semble même disposé à faire une pause dans les essais, non pas tant pour plaire aux uns ou céder aux autres, mais parce qu'il aurait atteint un niveau de développement satisfaisant de son programme nucléaire et mettrait désormais plus l'accent sur la production en masse de missiles, ce pourquoi il a besoin de temps et de moyens. Des moyens. Les sanctions économiques encore durcies ne sont sans doute pas étrangères à ce revirement de Pyongyang. Le front uni des pays en faveur de ces sanctions, le dernier train adopté par les Nations Unies, a même été soutenu par la Chine, son allié traditionnel. Ce front uni a sans doute poussé le dirigeant nord-coréen à desserrer les taux. Ce faisant, la Corée du Nord a retourné pour l'heure la situation à son avantage, en enfonçant un coin dans l'alliance militaire américano-sud-coréenne et en brisant son isolement.
Merci beaucoup Marie-Pierre Véraud. Le gouvernement annonce aujourd'hui l'abaissement de 90 à 80 km/h de la limitation de vitesse sur les routes secondaires, les routes qui sont seulement à double sens. C'est une mesure qui vise évidemment à réduire la mortalité sur les routes et qui est parfois contestée. Mélanie Juvet, vous avez passé ce matin en revue les différents arguments de ceux qui trouvent à redire à cette mesure.
Oui, déjà près de 6 Français sur 10 sont opposés à cette mesure, selon un sondage Harris Interactive diffusé aujourd'hui. Car toucher à la vitesse, ce n'est pas une solution pour l'association 40 millions d'automobilistes. Pour Bruno Marsloff, sociologue spécialisé dans les enjeux de la mobilité, c'est parce que la vitesse, justement, est devenue une valeur de notre société moderne.
La vitesse, c'est la performance. Cette valeur, elle est incorporée à notre quotidien et il est difficile de s'en séparer. Donc, ça fait partie d'une certaine manière de notre ADN social. De toute façon, les résistances trouveront toujours des arguments, quels qu'ils soient, pour pouvoir continuer de faire perdurer ce modèle de la vitesse.
Une résistance qui s'explique aussi parce que l'on toucherait à la liberté de l'automobiliste. C'est ce qu'analyse Anne Laveau, elle est déléguée générale de l'association Prévention routière, qui pourtant est favorable à cet abaissement de la vitesse.
L'automobile est clairement un prolongement du domicile. Les études que nous avons faites constatent que les Français se comportent dans leur voiture avec leur téléphone exactement comme s'ils étaient dans leur salon. Ils ne mettent pas du tout en perspective l'environnement dans lequel ils sont et qui est un environnement collectif de circulation. Déjà, ne serait-ce que dans le terme « limitation », on est tout de suite sur quelque chose qui touche à l'individu, à ses libertés.
À Matignon, on admet en tout cas que la communication sera la clé pour expliquer aux Français les bénéfices de cette mesure qui permettrait, selon le gouvernement, de sauver 350 à 400 vies par an.
Mélanie Juvet, merci. Des difficultés apparemment au cabinet de la ministre de la Culture, Marc Schwartz, en tout cas le directeur de cabinet de Françoise Nyssen, a été mis sur la touche. C'est une décision qui aurait été prise à l'Élysée et qui aurait pour but de mettre le turbo, comme on dit, sur cette réforme attendue de l'audiovisuel public. Bonjour Ludovic Piétenu.
Bonjour Antoine.
Alors vous venez d'avoir la confirmation effectivement de cette information. Absolument. Qui était donnée ce matin par l'Obs.
Pour vous décrire d'abord qui est Marc Schwartz, c'était d'abord le conseiller culture du candidat Macron pendant la campagne présidentielle. Il était donc logique qu'après l'élection, il atterrisse au ministère de la Culture comme directeur de cabinet de la ministre Françoise Nyssen. Il faut rappeler aussi que Marc Schwartz, conseiller maître à la Cour des comptes, était avant cela médiateur du livre en 2016, mais plus important avant cela, en 2015, coordinateur d'un rapport sur l'avenir de France Télévisions, la télé publique à horizon 2020. Et c'est là qu'on arrive au sujet d'actualité, la réforme de l'audiovisuel public souhaitée par Emmanuel Macron pour cette année 2018. Il veut rapprocher les structures déjà existantes. L'Élysée souhaite que les choses avancent vite cette année. Le château a fixé un calendrier des propositions en mars pour un projet de loi en Conseil des ministres avant la fin de l'année. Et on a senti récemment une reprise en main ferme du dossier par le président. Pas plus tard que mercredi dernier, lors de ses vœux à la presse, Emmanuel Macron rappelait le cadre fixé devant elle, d'ailleurs, à sa ministre. Il redisait vouloir revoir la grammaire et les règles de l'audiovisuel public, l'organisation aussi, disait-il, de la tutelle qu'il jugeait, je le cite, par trop tatillonne et inefficace. C'est la même tutelle qui est aujourd'hui à la manœuvre. Le feu directeur de cabinet Marc Schwartz et sa ministre n'allaient, semble-t-il, pas assez vite. Notons que c'est déjà, pour être tout à fait complet, le quatrième départ dans ce cabinet. 4 personnes sur 10 en l'espace de 8 mois. Il n'y a pas que dans l'audiovisuel public que les choses bougent.
Voilà, il faut aller vite pour le nouveau monde. Merci beaucoup Ludovic Piétenu. Toujours des inquiétudes dans le monde politique, notamment autour du projet de loi anti-fausses nouvelles. On va en parler, mais d'abord peut-être un mot avec l'invité de la dernière partie de la grande table, l'une des invitées, Michel Perrault. Bonjour.
Bonjour.
On va parler de Simone de Beauvoir tout à l'heure avec Daniel Salnave. Un petit mot sur ce qu'on a appris ce matin, c'est-à-dire un collectif de femmes, dont Catherine Deneuve, par exemple, Brigitte Lahaie ou Catherine Millet, qui publie une tribune donc dans le journal Le Monde aujourd'hui pour défendre, disent-elles, la liberté d'importuner des hommes et s'opposer ainsi à la campagne de délation, c'est leur terme, apparu après l'affaire Weinstein, à rebours donc de toutes ces réactions suscitées par ce scandale mondial. Alors elles écrivent « Le viol est un crime ». Mais la drague insistante ou maladroite n'est pas un délit, ni la galanterie une agression machiste. Une centaine de femmes signent ce texte. Vous-même ?
Elles ont raison dans la mesure où c'est compliqué et la frontière entre les deux est compliquée. Mais là où je ne les suis pas, c'est que je pense que le mouvement de prise de parole des femmes consécutif à l'affaire Weinstein est loin d'avoir épuisé ses effets et qu'il ne faut pas en diminuer la portée. Et là, il me semble qu'elle se désolidarise tout de même de quelque chose qui, à mes yeux, demeure un événement important.
Même Qui va changer quoi ?
Qui va changer quoi ? Qui devrait changer les mentalités surtout, les représentations ? Pas nécessairement la loi. Une loi, par exemple, pour poursuivre les importunités de rue me paraîtrait maladroite et difficile. Mais il me semble qu'en ce moment, il faut plutôt valoriser cette prise de parole des femmes que de la limiter, de la diminuer.
Merci beaucoup Michel Perrault. On vous retrouve dans quelques minutes, donc dans la dernière partie de la grande table avec Daniel Salnave pour parler de Simone de Beauvoir. Toujours donc des inquiétudes dans le monde politique, notamment, mais pas seulement, autour d'un projet de loi, le projet anti-fausses nouvelles. Hier, c'était le parti Les Républicains qui mettait en garde contre ce projet de loi qui peut porter préjudice, disait donc la porte-parole du parti, à la liberté d'expression. Et nous sommes vigilants, finalement, à quel moment est-ce qu'on est en face ou pas d'une fameuse fake news, d'une fausse nouvelle? Qui décide de ce qu'est une fake news? C'est ce que demandait notamment la porte-parole du parti, Lydia Guirousse. Et sur un même registre, ce matin sur Inter, le député France Insoumise, Alexis Corbière, s'interrogeait également.
Moi, je suis inquiet de ce qu'a annoncé le président de la République. Qui va décider ce qui est une fake news ou pas? Deuxièmement, il y a des dispositifs. Oui, mais il y a des dispositifs qui existent. L'article 27 de la loi 1881 sur la liberté de la presse interdit de diffuser des fausses nouvelles. Il y a aussi l'article L147 ou je sais plus du code électoral qui interdit quelqu'un à l'occasion d'une élection de diffuser des fausses nouvelles. Donc ça existe. Le président de la République dit en période électorale qu'il faut que le juge puisse aller rapidement. Mais enfin, ça pose un problème. Imaginez un ministre du budget qui ou un journal dit qu'il a un compte en Suisse et le type devant l'Assemblée nationale dit c'est une fausse nouvelle, c'est faux, les yeux dans les yeux. Bon, fake news ou pas fake news? D'accord? On a cet aperçu.
Le juge.
Oui, mais le juge, comment il tranche rapidement? Si le même ministre dit, voilà, je me présente aux élections et on est à 3 semaines d'un résultat, le juge, il ira pas plus loin que les enquêtes journalistiques. Donc tout ça, c'est du pipeau. C'est une vieille affaire. Vous savez, le 17 février 1852, dans le décret organique signé par Louis-Napoléon Bonaparte, il y avait déjà le fait que ça s'appelait les fausses nouvelles, vous voyez, on parlait pas en anglais, et devait être sanctionné. Depuis toujours, c'est une vieille affaire et ça a annoncé après le coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte. Il faut se méfier de cette affaire.
Voilà, Alexis Corbière avec Nicolas Demorand ce matin sur France Inter. On salue notre invité, l'avocat Fabrice Lorvaux. Bonjour.
Bonjour Antoine.
Auteur d'un roman, donc j'avisais Cheval Crétois, autour de ces questions de manipulation de l'information. Donc ça tombe bien, c'est pour ça qu'on vous a invité sur ce projet de loi. Vous avez, vous, l'impression que c'est utile, dangereux, nécessaire?
On est en plein dans l'ambivalence d'Internet. Et aujourd'hui, effectivement, la liberté d'expression va devoir prendre le virage du numérique. On est sur deux mouvements de forces contraires. D'un côté, vous avez le numérique ou Internet, les réseaux sociaux ont permis une explosion de la liberté d'expression, c'est-à-dire que beaucoup plus de personnes ont pu s'exprimer. Donc, d'un point de vue quantitatif, c'est quelque chose qui était plutôt positif. Cependant, et c'est là le mouvement ambivalent, c'est qu'au niveau qualitatif, on a eu effectivement une dégradation de l'information, à la fois au niveau de la forme, quand on voit toutes les insultes qui discours sur les réseaux sociaux, mais aussi sur le fond avec cette prolifération des fausses nouvelles. Voilà. Et donc la difficulté, c'est que à la fois pour intervenir pour essayer de corriger les effets négatifs, il ne faut pas effectivement tuer cette liberté d'expression.
Alors, vous êtes pour ou contre cette loi aujourd'hui ?
Alors, je suis pour effectivement qu'on se saisisse du problème. Effectivement, on ne peut pas nier que les fausses nouvelles sont d'une grande dangerosité pour la démocratie. Ça, effectivement, si on nie ça, on fait la politique de l'autruche. Par contre, là où il faut, c'est quelle réponse concrète va être apportée à ce problème.
Voilà, on ne sait pas encore trop ce qu'il y a dans ce projet de loi. Une question d'Éric Chavreau.
Oui, bonjour Fabrice Lorvaux. Je voulais préciser aussi auparavant dans ce contexte que la France Insoumise lancera lundi prochain son propre média intitulé Le Média. Ça, c'est une réponse donc de la France Insoumise et que le mouvement de Jean-Luc Mélenchon a lancé une pétition pour un conseil de déontologie du journalisme, un organe qui serait, je cite, un recours pour faire respecter le droit à une information objective.
On va être bien surveillé. Donc,
alors,
une question,
librement, par rapport au texte, puisque vous êtes un homme de droit et de texte, qu'est-ce qui est déjà précisément dans les textes?
Alors, c'est là où, effectivement, il faut voir en quoi va consister cette loi nouvelle, puisque d'un point de vue juridique, il existe toute une série de textes qui sont destinés à lutter contre ces fausses informations. La première, c'est effectivement celle que tout le monde connaît et qu'on trouve dans la loi de 1881, dite loi de la presse, c'est effectivement la diffamation. La diffamation, c'est l'imputation d'un fait contraire à l'honneur et à la considération d'une personne. Bon, si effectivement ce fait est un fait faux, vous pouvez le faire condamner. Bon, et il y a un texte spécifique, puisqu'il faudrait déjà ce qu'on définisse ce qu'est une fausse nouvelle.
Et là, oui, j'allais vous demander quand même, est-ce qu'il y a un critère juridique pour définir fausse nouvelle ou pas ?
Oui, une fausse nouvelle, c'est une nouvelle qui n'est pas vraie. Oui, la difficulté, c'est de définir la vérité dans une information.
D'autant qu'on dit souvent que les fake news, ce sont plus des informations trompeuses que des fausses informations,
oui.
Ce qui est beaucoup plus difficile à détecter et à parer.
À déceler. Alors, un des éléments, ce qui permet une classification de ces fausses nouvelles, c'est voir à peu près la destination de cette fausse nouvelle, la destination de cette information. Est-ce que c'est de la propagande politique, de la propagande électorale, de la propagande commerciale, ou même...
Exemple, alors donnez-nous des exemples de cette classification, par exemple.
De la propagande institutionnelle d'un pays, quand Poutine déclare que les athlètes russes ne se sont jamais dopés, c'est une information trompeuse. Pour ce qui est dans la propagande électorale, et c'est uniquement...
Enfin, dire que Poutine le dit, c'est une bonne information. Si
pour ce qui est de la période électorale, vous avez effectivement, par exemple, toutes les rumeurs qui ont couru sur le candidat Macron, où effectivement, ça a été la théorie, et c'est là où on a une certaine difficulté. Je prends un exemple concret. Vous vous souvenez de l'affaire du dossier du financement libyen de la campagne électorale de Nicolas Sarkozy? Eh bien, c'est sur ce texte de publication de fausses nouvelles qu'il avait poursuivi Mediapart. Six ans ou sept ans après, un non-lieu a été déclaré. Alors, il y a un pourvoi en cassation, semble-t-il, mais il a fallu tout ce temps-là pour instruire cette suspicion qui avait été jetée sur l'information.
Alors, il y a une loi en Allemagne qui vient d'entrer en vigueur. Là, au 1er janvier, loi critiquée par Facebook, qui oblige les grands réseaux sociaux à lutter contre les propos haineux et aussi les informations trompeuses. Alors, elle a été critiquée par rapport à la liberté d'expression. Elle laisse une marge de 7 jours, un délai de 7 jours aux réseaux sociaux pour analyser les contenus et dire en quelque sorte s'ils sont trompeurs ou pas. Est-ce que finalement la solution ne vient pas de ces diffuseurs? Est-ce que c'est pas à eux, à Facebook, YouTube, à eux qui ont les clés maintenant de trouver les solutions?
Vous avez tout à fait raison. Je pense que c'est plutôt vers cette direction qu'il faut explorer parce qu'aujourd'hui on a ce qu'on appelle le pouvoir des tuyaux. C'est-à-dire que vous avez beau avoir une belle décision vous disant que telle information est trompeuse ou qu'elle est fausse, si effectivement les réseaux sociaux, les fournisseurs d'accès à Internet, les hébergeurs ne la respectent pas, c'est le problème de l'effectivité du droit. Donc la démarche allemande me semble une démarche pratique, puisqu'elle, elle s'intéresse non seulement à la qualité de l'information, mais à celui qui la diffuse. Et effectivement, c'est plutôt dans cette zone-là qu'il faudrait réfléchir, puisque en termes de texte, les textes existent déjà, parce que la fausse nouvelle, elle est comme le mensonge, hein, elle existe depuis le commencement de l'univers.
Trump disant, je suis un génie stable. C'est vrai ou faux?
Ah, ça, effectivement, ça, c'est de l'appréciation de chacun. Mais alors, est-ce que c'est de la théorie du complot? Enfin bon, quoi qu'il en soit, est-ce que si c'est une fausse nouvelle, est-ce que pour autant elle doit être interdite? Là aussi, ça prête à débat.
Parce que vous avez dit au début, bon, ben, il y a de plus en plus de gens qui, effectivement, ont accès à la diffusion. Donc là, il n'y a plus tellement de filtres. Est-ce qu'on peut imaginer un temps où on ne saura même plus trop ce qui est vrai, ce qui est faux, même pour des personnes supposément informées ou supposément réfléchies?
Aujourd'hui, effectivement, si on regarde la progression de ces 5 ou de ces 10 dernières années, on va malheureusement vers la disparition des filtres. Et le filtre premier, ça a été le journaliste qui, effectivement, lui, prenait le temps, avait une déontologie, prenait le temps de réfléchir, de contextualiser de l'information et de l'expliquer. Aujourd'hui, effectivement, avec le règne du gratuit qu'a instauré Internet et son côté immédiat, vous devez, si vous ne parlez pas de l'information qui tombe et qui fait le buzz, vous êtes has-been et plus personne ne vous écoute. Et c'est là la dangerosité. Et c'est pour ça que peut-être les solutions sont à chercher autre part, en restituant un peu la valeur de l'information et en remettant l'école au centre de notre République, parce que c'est elle qui apprend l'esprit critique. Et la seule antidote contre la fausse nouvelle, c'est l'esprit critique.
Voilà. Et l'école, la République, l'esprit critique. Merci beaucoup, Fabrice Lorvaux, d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle le titre de votre roman, Cheval Crétois, autour donc de ces thèmes de la manipulation de l'information. Encore un temps pluvieux en Provence, avec des risques d'avalanche élevés dans les Alpes. Un ciel couvert, généralement température 7 à 16 degrés du nord au sud. Édition réalisée avec Yacine Bouzard. Prochain journal, 18h. Aurélie Kiffer.